suis né en Algérie, en 27, 1900, bien sûr. J'ai 98 ans. Je suis né en Algérie, j'ai fait une partie de mes études primaires et secondaires en Algérie, une ville qui s'appelle Tlemcen. Et ensuite, j'ai fait autre chose avant de faire médecine, j'ai fait une prépa de grandes écoles à Alger. Et puis j'ai viré et j'ai fait médecine à Montpellier en France. Donc j'ai fait ma vie de médecine en France. Je suis retourné exercer 2 ans en Algérie, entre 54 et 56. Et puis c'est la guerre d'Algérie, et, en tout cas surtout dans la région où j'étais, qui m'a incité à revenir en métropole. J'avais une douzaine d'années. Alors je disais que je veux être médecin. Et j'ai changé de direction parce que j'ai un frère qui a 5 ans de plus que moi et qui a commencé médecine, évidemment, plus de 5 ans avant, puisqu'il a commencé médecine, lui, avant la guerre de 39-40, 45. Il a commencé la médecine, je pense, en 39, oui. Et ensuite, il a été arrêté par la guerre. Il a fait toute la guerre. Et il est revenu en 45. Il a repris médecine en 45. Entre-temps, donc, moi, j'avais fait... Non, pas entre-temps, un petit peu avant qu'il revienne. J'avais commencé à Alger mes études scientifiques, on peut dire, ma prépa ingénieur. Et puis je l'ai rejoint l'année suivante en France. Mais comme il avait fait médecin, mais déjà médecine, j'ai dit, ben moi je ferai autre chose. Je ne voyais pas pourquoi je n'aurais pas fait autre chose que médecine, et je ne voyais pas non plus pourquoi je voulais faire médecine aussi comme lui. C'était un désir qui remontait à l'enfance, et que j'avais ensuite mis de côté. Non, quand on parlait à la maison, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Moi je vais être docteur. Je crois que ça m'avait influencé, parce que à 11 ans, j'ai eu une fièvre typhoïde. C'est ce que c'est. Bon, c'était mortel. C'est dû à un microbe. Et il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque. C'était en 1938. Et donc, j'étais très malade. Et le médecin venait me voir tous les jours. Et après coup, je me suis demandé, quand j'étais médecin, ce qu'il venait me faire. Parce que, étant donné qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, on ne pouvait pas faire grand-chose. Ah oui, j'aurais pu en mourir, oui, bien sûr, oui. Et comme il y a quelquefois des complications au niveau du cœur, de cette maladie, il devait faire peut-être des piqûres de corde, je ne sais quoi, mais des petites choses, du replâtrage. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Je l'aimais beaucoup, ce médecin. Il était jeune, d'ailleurs, et c'est peut-être lui qui m'a donné l'idée d'être médecin. Alors, je veux être médecin. Bon, mes enfants veulent être pompiers quand ils voient les camions de pompiers. Ah, excellent. Ben, je pense que d'ailleurs, tout un chacun garde des bons souvenirs de son enfance, normalement. Mais l'enfance en Algérie, vous savez, c'est un pays méridional, l'Algérie plus que méridionale. Alors, les relations entre voisins, entre voisins au sens large du terme, sont très, très marquées. Donc, on est beaucoup de gens, c'est l'esprit de famille un peu. Et puis, le climat s'y prête. J'avais beaucoup d'amis et des amis d'enfance. J'en ai perdu un bon nombre maintenant. Mais j'ai dans un groupe au moins de 5 amis, avec le plus ancien. Je suis ami avec lui depuis l'âge de 8 ans. Il est malheureusement mort il y a 3 ans. Et puis d'autres amis, il m'en reste plus qu'un. Mais j'en avais été ami pendant près de 80 ans. Très tôt, nous sommes installés en Algérie en avril 54, et la guerre, si on peut dire, en tout cas l'insurrection, a commencé en novembre. Bon. Oui, j'étais médecin, oui, j'étais médecin libéral, comme ici, et puis j'avais passé un concours de médecin des hôpitaux, j'étais médecin des hôpitaux de Tlemcen, et j'avais un enfant qui, à l'époque, avait pas encore un an, pas quand nous sommes installés là-bas, en venant ici, il avait 20 mois, bon, à peu près. La partie était terminée en Algérie. J'ai fait 2 ans d'exercice en Algérie, et puis j'ai cherché à revenir en métropole. Je me suis renseigné dans la presse médicale à pouvoir prendre une succession parce que je voulais faire de la médecine omnipraticienne rurale. En Algérie, j'étais en ville. Bon, c'est une toute autre médecine, même en Algérie. Mais en venant en France, oui, je me suis inscrit à la faculté de Montpellier en dentaire. C'était la première année qui faisait l'école dentaire. Et c'était pas très au point. On avait très peu de cours. On faisait des stages chez les dentistes. Pendant cette année-là, très vite, au bout de 2 ou 3 mois, je me suis inscrit aussi en médecine simultanément parce que le dentaire ne prenait pas beaucoup de temps et que la médecine m'intéressait toujours. Voilà. Puis, au bout de 2 ans, j'ai abandonné la partie dentaire parce que ce n'était pas suffisant. C'était la médecine qui m'intéressait. Voilà. Donc, j'ai fini ma médecine et je reviens à l'Algérie donc, pour des événements où notre vie était menacée, notre vie précisément, nous. On a décidé de repartir. Et comme je cherchais à m'installer en campagne, j'ai repéré dans la presse médicale, il y a toujours des médecins qui cherchent des successeurs ou qui cherchent des postes, etc. Et parmi ceux que j'avais repérés, le médecin qui exerçait ici avant moi m'intéressait. Et il m'avait dit, si vous voulez me fixer, venez voir, et puis vous déciderez. Donc j'ai pris l'avion un jour, je suis venu, j'ai passé 24 heures avec lui, et je suis reparti chez moi. Et en rentrant, on a failli sauter dans le train, il y avait une bombe sur la voie, quelques kilomètres avant d'arriver à destination chez moi en Algérie, à Tlemcen. Oui. Alors ça a fini de me décider, et ma femme, on s'en va tout de suite. On est parti sous quinzaine de jours après. Vous savez, l'Algérie, c'était vraiment comme la France, c'était une partie intégrante de la civilisation, des habitudes, des mœurs, tout ça. Il y avait deux populations distinctes, mais quand même assez intriquées. L'islamisme, tel qu'on le voit actuellement, n'existait pas. Et il n'y avait pas d'actes de violence, en tout cas liés à la religion. Il n'y avait pas de ni haine, ni quoi que ce soit dans les communautés. Au lycée, dans les écoles, évidemment, il y avait des Français d'origine, des musulmans locaux, au même niveau. Donc. En 1962, à la fin de la guerre d'Algérie, il y avait environ 1 million de Français d'origine qui ont quitté pour la plupart l'Algérie. Et il y avait quand même, à cette époque, 10 millions d'habitants musulmans. Il y avait des catholiques, il y avait des protestants, il y avait des juifs et des musulmans. Il n'y avait pas de bouddhistes, on ne voyait pas à l'époque. La succession d'un médecin qui s'appelait le docteur Gutin. Il est resté une quinzaine d'années ici. Lui, il s'est installé avant la fin de la guerre 39-45. Il a eu installé il a exercé 13 ans, c'est vu, parce qu'il a exercé pendant la guerre ici. Raconter assez d'histoires, il se faisait payer en nature dans les campagnes. Vous prenez de l'essence, il a changé les bons contre une poule ou un agneau. Enfin, c'était toute une histoire. Oui, donc j'ai pris sa suite, mais j'étais marié avant d'aller en Algérie. J'étais marié en 53, l'année avant. Bon, et en arrivant ici, j'ai trouvé le chef lieu de canton, un bourg très animé. Saint-Jean était très très animé par rapport à ce qu'on voit maintenant. Tout le long de l'axe longitudinal de la commune qui part, si vous voulez, depuis l'entrée, là, au niveau de la place du Champ de Mars, jusqu'au bout de l'autre côté à la piscine. C'était des commerces qui étaient tous ouverts et ça grouillait tous les jours. En particulier dans le centre, au niveau du square du 29 juin, il y avait plusieurs épiceries, boucheries, marchands de chaussures, etc. Il y avait bien une dizaine d'épiceries. Ça n'avait rien à voir avec l'activité actuelle. Quand je suis arrivé, nous étions deux. Le docteur Gutin et le docteur Laforêt, dont on a dû vous parler. Et il y avait un vieux médecin, quand je suis arrivé, il avait, je crois, 78 ans. Il n'exerçait plus beaucoup. Il était là depuis très longtemps. Alors il avait quelques personnes âgées qui le consultaient quelques fois, mais enfin, il ne faut pas compter comme médecin, il ne faisait pas grand-chose. Donc nous avons été deux pendant très longtemps. Et il n'y avait pas de médecin à Saint-Laurent, du tout. Il y avait un médecin à Pont-en-Royans et un médecin à Saint-Nazaire. Et ici, donc, le docteur Laforêt et moi. Et ça a duré jusque dans les années. Le docteur Laforêt est arrivé en troisième position. Ça devait être fin des années 70, peut-être. Non, entre 70 et 80, oui. Vous savez, les gens ne sont pas très... Pas tous, en tout cas, une majorité, ne sont pas très sociables au début. J'ai l'impression qu'au début, il y a... Ils s'étaient attachés au médecin qu'ils consultaient, celui auquel j'ai succédé. Donc, logiquement, ils pouvaient aussi bien continuer avec le successeur ou dire, tiens, celui qui n'est plus là, je vais aller ailleurs. Déjà, à cette époque, si vous voulez, la notion de médecin de famille était très forte. Actuellement, de plus en plus, dans les jeunes générations, on va chez le médecin, j'allais dire un peu comme on va à la boulangerie. S'il n'y a pas de père de boulangerie, on va en chercher à l'autre. Voilà. Chez le médecin, c'est pareil. Et ça faisait également autrefois, mais exceptionnellement. Les gens étaient très attachés à leur médecin. Ce qui fait qu'au début, il y a une certaine réticence. On veut voir ce que c'est ce médecin. Alors, les premières semaines de mon exercice ici, j'avais des cabinets normaux, beaucoup de gens, mais très peu de visites. Appeler le médecin chez soi, c'est déjà une forme d'amitié. On allait chez lui, on voyait ce que c'était ce médecin, etc. Puis, ce qui fait qu'il faut un certain temps, peut-être, pour se refaire une patientèle, parce qu'on n'hérite pas toujours des mêmes patients. En grosse partie, oui. Mais souvent, c'est de l'occasion pour certains qui hésitaient, dit tiens, je vais aller voir celui-ci plutôt que l'autre. Et les patientèles évoluent. Mais enfin, quand on est deux, ça fait pas une grosse diversité. Hein. Il était dans la rue Jean Jaurès, au-dessus de la boucherie qui est fermée. Nous sommes allés 12 ans là-bas. Par la suite, nous avons été deux, puis trois, avec, puis quatre avec le docteur Menveau. Et ça n'a pas fait de changement. Il a bien fallu que chacun fasse sa place. Hein. Disons que c'était peut-être moins lourd après. Parce que quand nous étions deux, c'est pas sur Saint-Jean seulement. Hein. Et aussi bien, moi surtout, j'allais beaucoup, beaucoup dans le Vercors. Il y avait dans le Vercors un médecin retraité de l'armée qui était très, très relax. Alors, dès que quelque chose dépassait le stade de l'angine, ils ont voulu aller voir quelqu'un d'autre. Ce qui fait que j'avais une très grosse activité à Saint-Julien, à Vercors, à Saint-Martin, à la chapelle un peu moins parce qu'il y avait le médecin sur place, à Vassieux, ça faisait faire beaucoup de kilomètres et des journées très longues, bien 75 heures par semaine. J'ai commencé mon cabinet au début à 8 heures, après à 7h30. J'ai commencé mon cabinet à 7h30. C'était sans rendez-vous. Parce que d'abord, les rendez-vous, c'était une... J'en donnais tant des rendez-vous. Mais malgré le peu de rendez-vous que je donnais, il y a beaucoup de gens qui s'arrangeaient à venir une heure après. Et là, ça bousille tout, c'est pas possible. Le dentiste m'avait dit, voilà, prenez pas de rendez-vous. C'est pas possible. Après, ils s'y sont faits. Je commençais à 7h30 et je finissais mon cabinet entre 13h et 16h. Voilà. Ah oui, ensuite il y avait des visites et il y en avait toujours beaucoup. Surtout les premières années où les gens n'ayant pas de voiture pour la plupart, dans les campagnes en tout cas, hein, ils appelaient les médecins sur place. Il n'y avait pas de service d'urgence. Quand quelqu'un tombait dans la rue, en vélo, etc., on n'appelait pas le SAMU tout de suite ou on n'envoyait pas les pompiers à l'hôpital en urgence. On appelait le médecin. Et moi j'avais une installation radiologique. Je ne faisais pas des radios pour des trucs compliqués. Mais je pouvais radiographier un poignet, un bras cassé, une cheville, enfin des petites choses. Je faisais une réduction de fracture, je mettais des plâtres, je suturais des plaies plus ou moins importantes. Beaucoup de choses que je m'apprêtais à faire, je savais, c'est ce que je voulais faire. Une médecine assez complète. Et ça a été peu à peu abandonné. Les conditions d'exercice ne s'y prêtent plus aussi. Par exemple, moi je faisais des accouchements. Alors, ici, il y avait une petite paternité, vous êtes au courant, qui avait été créée par mon prédécesseur. Et quand elle a fermé parce qu'elle ne répondait pas aux normes. Actuellement, vous savez, dans un établissement hospitalier, le nombre d'infirmières, d'aides-soignantes, de sages-femmes, etc., est décidé par loi ou par décret. Ici, il n'y avait qu'une sage-femme, Madame Planet. Planet, oui. Pour la maternité, elle y était jour et nuit, les dimanches et les jours fériés. C'était pas vivable. S'il y avait eu dû avoir deux sages-femmes ou trois sages-femmes, plus une infirmière de jour, une infirmière de nuit, il fallait fermer boutique. Ce qui s'est fait d'ailleurs. Voilà. Elle a fermé en 61. Je pense qu'il a dû la créer en 49 ou 50. Et ça a duré une douzaine d'années à peu près, oui. Moi, j'ai pris en charge la maternité sur le plan médical, puisqu'il y avait une sage-femme. Il faut quand même qu'elle soit couverte par un médecin. Alors, je m'occupais des accouchements difficiles, ou les forceps, les choses, enfin, des accouchements qui nécessitaient les interventions du médecin. Et puis, je passais surveiller sur le plan médical les suites d'accouchement. Et quand la maternité a fermé, la sage-femme m'a dit « J'aimerais bien faire des accouchements à domicile ou chez moi. » Je lui ai dit « Écoutez, vous proposez chez vous, ça paraît difficile. » Et puis, elle a fait quelques accouchements comme ça. Elle a accouché des femmes enceintes qui voulaient accoucher à domicile chez elle, chez la patiente, hein, chez la femme enceinte. Sur le plan affectif, c'est très important. Les femmes qui viennent dans ces petites maternités se sentent un peu comme chez elles. Ce n'est pas l'anonymat de l'hôpital, le froid ou la rigueur de l'hôpital. Alors par la suite, j'ai fait mes accouchements à l'hôpital de Saint-Marcelin et certains autres à une clinique à bord de péage qui n'existe plus actuellement, qui faisait clinique chirurgicale et obstétricale. Voilà ce qui fait qu'une partie des enfants que j'ai aidés à mettre au monde, c'était dans ces deux endroits. Plus quelques-uns à domicile parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'aller à la clinique. Ça, c'était plus folklorique. Ça pour expliquer que le médecin généraliste de l'époque avait quand même un champ d'activité assez vaste. Assez vite, j'ai été, je cherche le terme, j'ai été très ému à la fois et heureux de donner l'impression d'être accepté et considéré comme quelqu'un de la famille. Je vais vous citer un exemple. Quand j'ai cessé d'exercer, avant de m'arrêter, c'est le docteur Duc-Mauger qui m'a succédé. Alors, avec le docteur Duc-Mauger, il est resté avec moi quelques jours, il faisait des consultations, des visites en même temps que moi, je lui présentais les patients. Et je vais ici, dans une famille, avec lui, et la maîtresse de maison me dit « Oh, quand même, docteur, vous partez... » On a tellement l'habitude. Vous avez soigné 5 générations. Je dis, mais non, 5 générations, c'est pas possible. Si, si, elle m'a dit calculer. Alors, elle et son mari, donc, les avaient soignés. Elle avait des enfants. J'en ai mis certains au monde. Ses enfants ont eu des enfants que j'ai mis au monde aussi. Et elle avait eu avant ses beaux-parents et le grand-père. Alors, j'avais soigné le grand-père, le beau-père, la famille, les enfants et les petits-enfants. Et elle dit, comment dire que ça ne s'oublie pas. Et au cours de ces 35 ou 36 années de contact avec mes patients, il y a souvent eu des incidents, des événements plus ou moins heureux ou malheureux, dont le médecin fait partie. S'il y a un retentissement sur la santé, quoi que ce soit, ça c'est l'inconvénient quelquefois, d'avoir perdu les curés, puisque les gens laissent confesser au curé ou se confient au curé. Maintenant, c'est au médecin ou peut-être au psychologue. Enfin, le médecin, c'est important, ça, le médecin rural devait faire beaucoup de psychologie, peut-être beaucoup plus qu'avec un exercice urbain. Des événements de famille, par exemple, qui jetaient certaines confusions parmi les membres de la famille, et le médecin, quelquefois, il servait presque de conseiller, mais je n'ai pas les outils pour être conseiller familial. Hein. Mais j'ai l'impression que d'avoir fait partie de leurs soucis, partie du moment où vous avez l'impression de nouer des liens amicaux avec vos patients, vous êtes tenu inévitablement de les suivre dans les à côté. J'appréciais cette relation unique qu'on peut lier avec ses patients. C'est pas toujours facile parce que ça fait, j'allais dire, perdre, c'est pas perdu, perdre beaucoup de temps quelquefois parce qu'il faut les écouter. Or, la consultation moyenne maintenant chez un médecin, c'est un quart d'heure. On ne peut rien faire en un quart d'heure, sauf si c'est pour renouveler un papier. Mais on ne peut rien faire en un quart d'heure. On est quelquefois obligé de consacrer une demi-heure, trois quarts d'heure ou plus. Mais c'était comme ça. Maintenant, je vous dirais que maintenant, les médecins ont tellement de paperasse à remplir que le temps qu'ils auraient pu passer avec leurs patients, ils sont obligés de le passer autrement. Mais à mon époque, on n'avait pas trop de paperasse. Donc. Je me souviens, j'allais faire des visites justement vers Caen, je me revois très bien en voiture. Réfléchissant à ça, parce que je me suis dit, mais si un jour le nombre d'appels en visite dépasse 15 ou 20 ou 30, on ne sait jamais, dans la journée, je ne peux pas le faire. Et je ne peux pas continuer comme ça éternellement. Et je pensais comme ça parce que j'avais lu le matin dans une revue locale, non pas locale, mais une revue médicale, oui, qu'on demandait à Valence, à la Sécurité sociale, un médecin conseil. Alors je me suis dit, est-ce que si j'allais me présenter? Et puis non, c'était pas mon genre, non. Je pense que il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas, il ne faut pas le faire. Ou si on en a peur. Moi, j'ai un fils médecin. Il est biologiste, hein, il est anatomopathologiste. Mais il m'a remplacé une fois. Il avait été interne depuis 3 ans. Il m'a remplacé un été. Mais il m'a dit, je ne recommencerai jamais. Il m'a dit, j'ai vécu en transe pendant un mois. J'étais affolé, si je laisse passer quelque chose de grave, qu'est-ce qui va m'arriver? Et qu'est-ce qui va arriver à l'autre? C'est pas un métier, non. Il faut tenir, je crois, la disponibilité. Il faut que le médecin rural soit disponible. L'amitié, il faut avoir... c'est pas comme les juges, il faut pas être indifférent aux patients. Il faut prendre un peu son mal. Oui, il faut de l'empathie. Eh bien, j'avais une femme extraordinaire, qui m'aidait beaucoup. Et qui m'aide toujours beaucoup, Janine. Et j'avais des enfants, j'ai eu 2 enfants. Des enfants que j'aimais beaucoup, et on était une famille très unie. Mais on essayait de prendre le plus possible de temps avec eux, dans tout ça, les week-ends, les vacances de temps en temps. Vous savez, femme de médecin à la campagne, c'est bon, faire son travail de femme et de mère de famille, mais c'est aussi répondre au téléphone, noter les visites, chercher à trouver son mari si c'était pressant, en l'appelant. Je partais toujours avec la liste de mes visites, elle savait où j'étais à peu près. Si elle téléphonait à un endroit et qu'on disait non, il est passé ou non, il n'est pas encore passé, elle pouvait laisser une commission. Il n'y avait pas le téléphone portable comme maintenant. C'était un tampon entre le patient et son mari. Je crois qu'après coup, je me suis dit que j'ai pu agir en égoïste parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Mais si je m'étais installé en ville, dans une ville avec un lycée ou même une université, à Montpellier par exemple, il n'y avait pas les mêmes problèmes. Pour elle, pour les enfants, mais pour nous, parce que mes enfants ont fait leurs études primaires ici, les secondaires à Saint-Marcellin, et les études devaient ailleurs. Ma femme n'a jamais fait d'objection. Et puis, vous savez, en plus, quand on... En Algérie, la ville où j'exerçais, c'est une ville qui avait 70 000 habitants, à peu près. Bon, mais les dernières semaines, il y avait le couvre-feu tous les jours, à 4 heures. Donc, on était obligé de rester chez soi. J'allais à l'hôpital tous les jours. C'était un infirmier qui venait me chercher, avec une grenade à la main pour... Et moi j'avais un pistolet sur le bras, j'avais droit à un port d'armes. C'est pas une ambiance très réjouissante. Alors quand on a vécu comme ça pendant quelques mois, et quand on se retrouve ici, on a l'impression qu'on passe de l'enfer au paradis. On fait pas la fine bouche, on peut dire oh, ben, on serait peut-être mieux dans une ville, non. Et bien quand je suis arrivé ici, en 56 toujours, il n'y avait pas de garde, de médecin, d'auto de garde. Mon prédécesseur consultait tous les matins, faisait des visites l'après-midi, et le dimanche aussi. Il consultait le matin, pas de visite le dimanche. Pas de visite si on a besoin d'urgence. Et le premier dimanche, l'appartement que nous habitions, dans la Georges Vresse, c'est un premier étage. Il y avait deux appartements sur le palier. Et l'un servait de cabinet, l'autre servait d'appartement à vivre. Et le dimanche matin, les gens viennent et s'installent dans la salle d'attente, et au bout d'un moment, ne voyant rien venir, ils sont dans l'appartement, et ils demandent à la femme, le docteur n'est pas là, elle dit si. Il dit, mais il ne fait pas cabinet. Il dit, ben non, c'est dimanche. Ah bon ? Mais vous travaillez, vous, le dimanche ? Et ben non, on se repose, ben lui aussi. Alors, ça s'est arrêté là. Non, il n'y a pas cabinet. Mais si j'étais chez moi le dimanche, et qu'il y avait quelqu'un qui avait une urgence, ou ce qu'il estimait être une urgence, il venait quand même. Et je l'ai créé, le service de garde. J'ai vu le docteur de la forêt, à qui j'ai demandé s'il voulait qu'on fasse un service de garde. Il m'a dit, ah ben oui. J'ai vu le docteur Guillard, qui exerce encore, le vieux médecin dont je parlais tout à l'heure. Et puis alors, tout de suite, ça s'est su dès la semaine suivante, le mois suivant peut-être, le médecin de Pont-en-Royan a demandé à s'y associer, celui de Saint-Nazaire aussi, et puis beaucoup plus tard, celui de la chapelle à Vercors. Donc pendant quelques temps, on a roulé à 6 médecins de garde. J'organisais les gardes de manière aussi équitable que possible. On faisait ça à tour de rôle. Il pouvait très bien que le même tombe de garde pour les Noël et le jour de l'an, et pour les deux jours, par exemple, de Pâques ou de Pentecôte. Donc il fallait calculer pour l'année et équitablement. Et puis après, ça s'est étendu, mais alors beaucoup plus. On était une dizaine, y compris des médecins de Saint-Romain, des médecins d'Austin. Puis il y avait plus de médecins aussi. Oui, à Saint-Jean, à un moment, nous étions quatre. Oui, mais à Saint-Laurent, il n'y a pas eu de médecin jusque, je ne m'en rappelle plus quand, mais enfin, le docteur Savignon est arrivé peut-être dans les années 80-90. Il a créé le poste, il n'existait pas. Les premiers temps, la sécurité sociale agricole n'existait pas. Alors, le monde rural consultait très peu. Ils avaient quelquefois des mutuelles qui couvraient un peu les frais, mais ils n'avaient pas d'assurance, ils n'avaient pas d'assurance sociale. Ça a été créé assez vite après mon installation, je crois, hein. Peut-être 4 ou 5 ans après. Mais donc, ils consommaient très peu, à la fois chez le médecin et chez les dentistes. Les spécialistes, actuellement, vous savez, pour vous rendre rendez-vous chez un ophtalmo, par exemple, ou un dermato, il faut attendre 2 mois, 3 mois, ou même indéfiniment, parce qu'on vous répond qu'il n'a pas de place à vous consacrer cette année. Et vous donnez rendez-vous pour le mois de juin de 2026. Ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas. À population égale, j'ai l'impression. Hein. C'est ça ce qui est incompréhensible. Bon, la consommation médicale a évidemment beaucoup augmenté. On va chez le médecin beaucoup plus facilement. En tout cas, on veut y aller. Si on n'y arrive pas, on y arrive quand même. Beaucoup plus facilement qu'autrefois. Je pense. La preuve, il manque toujours des médecins en France, alors que le nombre de médecins par habitant, je ne sais pas s'il a beaucoup diminué. On a empêché des tas de médecins d'arriver, et on va chercher des médecins à l'extérieur qui n'ont pas toujours des critères de qualité d'études comparables à celles de la France. Même la médecine, à l'époque, c'est rien, 30 ans dans une vie ou 35 ans. Mais il y a eu des progrès considérables. Je peux dire qu'un médecin qui commence à mettre la médecine, comme moi j'ai commencé mes études en 1946, qui commence à m'étudier en 1946, qui en sort 8 ans plus tard, et arrivé vers la fin de sa carrière, il a, s'il est sérieux, au moins renouvelé 2 ou 3 fois ses connaissances. Parce que tout a tellement évolué, actuellement, un électrocardiogramme, c'était embryonnaire à la fin de mes études, on ne savait pas grand-chose avec l'électrocardiogramme. La radiologie, ça a existé, oui, bien sûr, mais les scanners, les IRM, ces choses-là, ça n'existait pas. La cardiologie de l'époque, c'était élémentaire. Les hypertendus mouraient tous d'accidents vasculaires cérébraux. Et actuellement, on peut être hypertendu à 20 ans et vivre 90 ans ou 100 ans. Donc, l'épanamétine a fait d'immenses progrès. C'est peut-être une raison aussi pour que il y a plus d'activité médicale. Les gens meurent plus tard, hein, on le sait. Eh bien, quelquefois, on devait intervenir par la force publique. Par exemple, des maris alcooliques qui rentraient, qui battaient leur femme, et qui étaient ivres-morts, et la femme disait, j'ai appelé la police, ou le pompier, ou le médecin, si le médecin vient, je le tue. On n'est même jamais allé comme ça, ils ne m'ont pas jamais tué. des actes gratuits, on en fait beaucoup dans une carrière, énormément. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai fait des quantités. Vous savez, dans une famille modeste, le fait d'être remboursé, c'est très bien, mais on n'est remboursé pas le lendemain. Il faut avoir l'argent pour payer. Et il y a des gens qui n'ont pas de quoi payer tout de suite. Oh, je dépasse après, non. Il y a des gens qui n'ont pas payé, il y a des gens à qui on fait une fleur, et qui, eux, sont malhonnêtes, parce que ils m'étaient arrivés de dire, écoutez, j'ai aussi de vos papiers, quand vous serez payé, vous me rembourserez. Et ils ne m'ont jamais remboursé. Pas tous, certains. C'est arrivé, ça. Souvent, mes enfants me disent, tu devrais... Je n'ai pas, j'ai jamais pris de notes, j'aurais dû peut-être même, le soir, faire tenir un journal qui m'aurait permis après de pouvoir récupérer tout ça. Non. Si j'en ai vu, j'ai vu deux ou trois fois quand j'étais à la maternité en particulier, c'était au début de mon... Des femmes qui venaient avec des utérus perforés, qui s'étaient mises elles-mêmes ou par quelqu'un d'autre, un objet dans le vagin, et puis elles voulaient le mettre dans l'utérus, elles n'y sont peut-être pas arrivées, mais ça avait traversé le sac vaginal et elles étaient rentrées dans l'abdomen. Hein. Des choses graves. À l'époque, on parlait de planning familial, pas à Saint-Jean, à Grenoble ou ailleurs. Et j'avais fait venir un médecin de Grenoble qui était... en première ligne dans cette histoire de planning familial, pour faire une conférence à Saint-Jean sur la contraception. Il y a beaucoup de monde est venu, et ça les a intéressés, on leur a parlé de la pilule à l'époque, la pilule, des diaphragmes, il n'y avait pas de stérilet encore. Et il y a eu la demande après. Je ne faisais pas d'avortement, personne ne pouvait dire, il m'a fait un avortement, vas-y, il te fera avorter. Non, je n'ai jamais fait d'avortement. Pour deux raisons. D'une part, on sait comment on commence et on ne sait pas comment ça finit. Et deuxièmement, si vous commencez une fois, vous mettez le doigt dans l'engrenage, vous n'en sortez plus. J'ai une petite jeune fille qui avait 13-14 ans, une Italienne d'origine, qui vient avec sa mère, que je soignais depuis longtemps, la mère aussi. Et elle dit, elle m'amène sa fille, parce que sa fille était allée en colonie de vacances. Et elle me dit, vous savez, ils n'ont pas dû bien manger, elle n'est pas bien, elle est tout détraquée. Elle vomit, alors je fais allonger la fille sur la table. Dans mon cabinet, de mon bureau, on n'avait pas vu sur la table, sur la salle d'examen. Hein. Alors je dis à la maman de rester là, et j'examine la fille, elle était enceinte. Sa mère avait mon âge, exactement, je m'appelle. J'étais obligé de le dire. Je dis, mais votre fille, c'est pas qu'elle a mal mangé, c'est que... Elle est enceinte. Oh, c'est pas possible. Écoutez, c'est pas possible. Elle est enceinte de 3 mois, votre fille. Elle était affolée. La fille, je ne sais pas ce qui serait passé avec sa mère par la suite, mais il faut le lui enlever, elle me dit. Écoutez, madame, c'est pas mon rôle. Je ne veux pas faire ça. En plus, votre fille est mineure. On ne fait pas ça comme ça, à la sauvette. Hein. Alors, à l'époque, on ne faisait pas d'avortement. Il n'était pas autorisé l'avortement à l'époque. Alors, pendant 2 ou 3 ans, peut-être même plus, je n'ai plus revu ni fille ni mère. Enfin, on a voulu à moi qu'elle soit enceinte. Non, c'est souvent comme ça. C'est le porteur de la nouvelle qui est victime de... Elle a dû avoir affaire à une assistante sociale qui a envoyé la fille dans une maison qu'il y avait à Valence pour les filles mères. Parce que longtemps après, j'ai été appelé chez cette dame, que j'ai récupérée après comme patiente, elle a commencé à venir chez moi, mais il y avait sa fille ce jour-là, avec un bébé, qui était malade. Et c'est là que j'ai appris qu'elle avait été... Mais j'ai appris par la bande, parce que la maman n'a plus parlé de ce jour-là. Ben, les filles, une petite jeune fille de moi, qui avait 14 ou 15 ans aussi, qui... Et à vos cabinets, toute seule, et qui me dit, je voudrais prendre la pilule. Je lui dis, je ne peux pas te donner la pilule sans le consentement de tes parents. Ma mère ne veut pas que je prenne la pilule. Je lui dis, mais elle a raison, ta mère a 14 ans, tu ne vas pas prendre la pilule pendant 5, 6, 10 ans. Tu pourras peut-être difficilement avoir des enfants après. La pilule, c'est dangereux, c'est pas... Elle est venue avec son père, qui m'a dit, vous comprenez, elle sort avec un garçon. Alors si elle ne prend pas la pilule, elle va revenir avec un bébé. Donc j'aime autant qu'elle prenne la pilule. Il n'avait peut-être pas tort. Il y avait à Grenoble un médecin qui, non pas. Parce que les avortements, ils s'en faisaient par des médecins corrompus qui faisaient payer très cher. Alors je sais que j'ai connu des gens qui étaient allés chez un médecin qui était presque à la frontière suisse, enfin assez loin d'ici, et qui avait demandé une somme, genre, pour l'époque, qui paraissait monstrueuse, comme s'il avait demandé aujourd'hui 1000 euros. Et toujours sans garantie, je fais ça, après je ne vois plus, hein, s'il y a des problèmes. Vous voyez un médecin, vous allez à l'hôpital, mais... Non, mais il y avait un médecin à Grenoble qui faisait des avortements gratuitement, en fonction du désir de la femme. Et par idéologie. Il considérait qu'une femme a le droit de ne pas être victime de... Il est conseillé après pour une contraception. Mais il prenait des risques, hein, parce que c'était sévèrement puni à l'époque. D'abord, vieillir où ? Et à partir de quand vieillit-on ? Voilà, quand j'ai cessé d'exercer, donc en 92, j'avais 65 ans, je considère maintenant que j'étais en pleine forme à cette époque-là. On a pu d'abord se consacrer à nous et à nos enfants, nos petits-enfants après, et je me trouvais très bien à Saint-Jean. On avait un appartement à Palavas, à la mer. J'ai commencé par le refaire entièrement, je suis très bricoleur. Même avec tout ça, je bricole, vous voyez. Et puis on a voyagé. On a profité de tout ça. Donc Saint-Jean, c'était la base. Les enfants y tenaient, d'ailleurs, à Saint-Jean aussi. Ma fille était... J'ai perdu ma fille il y a 14 ans d'un cancer du sein. Elle avait 53 ans à l'époque. Mais mes enfants étaient très attachés à Saint-Jean. On a voyagé. On a pu recevoir des amis et être reçus par eux. On a fait partie un temps, oui, de voyant d'hier et d'aujourd'hui. Et puis, depuis la mort de ma fille, on avait cessé. Puis on n'a pas repris, c'est devenu très, très gros maintenant. Il a fallu arriver à la fin de l'activité pour avoir des amis sur place, qui étaient d'ailleurs pour la plupart des patients, mais avec qui je n'avais que des relations du médecin à patient, avec une touche amicale, puisque je les aimais bien, et que par la suite, quand j'ai pu aller, ils ont tous commencé à nous inviter chez eux, et puis on le leur rendait, et puis peu à peu le groupe s'est étoffé, et on est arrivé à se retrouver. Mais c'est après ça, c'est à la retraite. Si j'ai gardé avec mon prédécesseur, c'est arrêté notre premier ami local, et il m'a dit, je n'ai qu'un conseil à vous donner, je ne vous donne pas de conseil de médecin, ne fréquentez personne ici. Parce qu'il y a beaucoup de médisances, il y a beaucoup de... Vous risquez de bousiller votre couple. Ne fréquentez personne. Je n'ai pas eu besoin de l'écouter parce que je n'aurais pas eu le temps. Mais nous fréquentions régulièrement. À la sauvette, le soir, un repas, une soirée au théâtre à Grenoble ou ailleurs. Nos prédécesseurs ici, avec qui on a beaucoup sympathisé. Non, pas les relations amicales, c'est possible. Pas se mélanger, pas. On peut être ami, enfin ami, c'est un grand mot, mais la relation dans une vie comme ça, c'est forcément recevoir un repas, un dîner le soir et passer la soirée ensemble. Pas ce genre de choses. Pas avec des couples. On m'a souvent demandé, par exemple, quand chaque fois qu'on changeait de municipalité, de faire partie des. J'ai toujours refusé. Parce que d'abord c'était incompatible avec mon activité, c'est sûr. Et après je lui dis, tu as quand même beaucoup donné, j'arrête. Je m'y intéresse, mais je ne prends aucune responsabilité dans la gestion ou des activités autour de moi. Bon, d'abord, j'ai cessé, mais je suis resté dans le pays. Ce qui fait que j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver mes anciens patients. Il y en a de moins en moins, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts maintenant, énormément. Mon prédécesseur m'a dit un jour, vous savez, je ne suis pas très content, je vous ai laissé une clientèle en bonne santé, mais vous en avez tué quelques-uns. J'aurais pu étant médecin des hôpitaux en Algérie, nommé au concours, donc les concours font partie des mêmes concours qu'en France à l'époque. Hein. J'aurais pu demander un poste de médecin des hôpitaux en France et être fonctionnaire à l'hôpital et avoir une vie évidemment beaucoup plus, intellectuelle sur le plan médical, c'est-à-dire être à la recherche, enfin pratiquer des examens, des recherches plus poussées, plus scientifiques, ce qui permet de faire avancer la médecine, que médecin omnipraticien à la campagne. Mais non, je préfère cette activité. C'est le suivi dont je vous parlais. C'est le suivi, même à l'échelle individuelle, quand vous soignez quelqu'un que vous voyez naître, et que 30 ans après, vous continuez à le soigner, il a des enfants, il est enceinte et vous l'accouchez. Ça crée des liens qui sont difficiles à exprimer autrement. On se sent impliqué. Et aussi, d'ailleurs, quelquefois, je vois une jeune fille qui vient m'embrasser, une jeune fille ou une jeune femme, elle vient m'embrasser, je ne la reconnais pas toujours, parce que je ne l'ai pas vue depuis 15 ans ou 20 ans, elle a beaucoup changé. Et je l'ai mise au monde, quand elle me voyait, elle m'embrassait quand elle était jeune, et quand elle me retrouve, elle m'a embrassé. Ça fait rire ma femme. Il raconte quand son mari se fait embrasser par des jeunes filles dans la rue. Il n'y avait pas les écrans. On avait eu un des premiers, parce que nous sommes au bout du village, alors avec une antenne haut placée, on arriva à capter le Pila. Et il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça ici, qui était très ingénieux. Et il y avait 2 ou 3 postes de télévision dans le village. Après, évidemment, ça s'est très vite répandu. Mais effectivement, le soir, les gens, et à la campagne, et les citadins, ceux des bourgs, allaient les aider. Ils triaient les noix. Ils faisaient des maniocs avec les feuilles de tabac. On cultivait beaucoup le tabac dans la région. Maintenant, ça a été arrêté. Il y a plus de maïs et de tournesol aussi, là où il y avait du tabac. Mais c'était une culture ingrate, qui rapportait très peu, qui demandait beaucoup de temps. Mais l'hiver, à la campagne, on n'a pas grand-chose à faire, à part traire les vaches. Et alors le soir, à la veillée, ils triaient leurs feuilles de... Et ils faisaient ce qu'ils appellent des maniocs, des groupes de 20 ou 30 ou 40 feuilles, de même longueur, qu'ils allaient ensuite porter à la régie du tabac, à Saint-Marcelin. Enfin, beaucoup de familles étaient venues, on disait, le soir pour ça. Et puis, il y avait aussi des réunions familiale le soir, on mangeait une pognade avec les voisins ou avec des amis. Et tout ça, la télévision, on l'a supprimé. Tous les tranquillisants, les anxiolytiques, etc., les neuroleptiques, n'existaient pas tous à cette époque, loin de là, et on n'éprouvait pas tellement le besoin. Maintenant, c'est effrayant. Saint-Jean est sûrement, mais peut-être un peu moins, qu'à l'image du reste de la France. Vous savez, il y a eu ici, mais là j'étais plus, enfin, je n'exerçais plus, ces dernières années, il y a eu de nombreux cas de maladie de Charcot. Et la maladie de Charcot, ce n'est pas quelque chose de contagieux. Et c'est bizarre parce qu'il y a eu, dans le Royan hein, surtout, je crois que dans ma carrière entière, j'ai dû en voir 2, peut-être 2 ou 3, et là, je ne les ai pas vus puisque c'est moi qui les soignais. Mais je sais que je peux en citer presque une dizaine. Ouais. Voilà, certains avaient soulevé l'hypothèse de traitement des noyés par je ne sais quoi. Je suis de moins en moins, ça ne me concerne plus beaucoup. Quand je vois des éléments nouveaux qui apportent quelque chose, oui, ça m'intéresse. Je ne suis plus dans le coup. C'est difficile, ça évolue vite, vous savez. Vous savez, moi je crois avec l'âge que toutes ces choses-là, ce n'est pas forcément ce qui tue. Je pense qu'il y a une question de gêne, de la vieillesse, sûrement. Dans les familles, ma mère est décédée à 92 ans, c'est déjà pas mal. Mon père, je vous l'ai dit, ça c'est le mauvais gène, lui. Mais j'ai dû hériter ceux de ma mère, plutôt. Mon grand-père maternel est mort à 88 ans, mais il est mort d'un accident, d'un attentat. Il a reçu une grenade qui lui a explosé la jambe, il est mort. Et puis ses frères et sœurs sont tous morts à 96, 97 ans. Je pense que les gènes sont pour beaucoup. Ma femme a 95 ans. Et récemment, on était dans une clinique où on a dû faire une infiltration du genou. Et la secrétaire, qui avait pris nos renseignements, alors elle sort de son bureau et elle vient et elle dit à ma femme, Madame Terchman, je m'excuse, mais on a dû faire une erreur. Votre date de naissance, c'est quand ? Elle dit 15 août 1930. Ah ben c'est bien 1930. Vous avez 95 ans. Eh oui. Alors dans la salle d'attente, il y a eu des rires. Une dame en noir qui dit 95 ans, mais comment avez-vous fait ? Dites-moi. Une autre dame à côté qui dit, mais alors vous, monsieur, vous avez combien ? J'ai 98, mais c'est pas possible. Il se trouvait qu'on était anormaux pour nos âmes. Des rêves. Oh, comment voulez-vous rêver à 98 ans ? Je veux rêver quoi ? Je peux rêver. J'ai un rêve, c'est. Je voudrais pas mourir avant ma femme et je voudrais pas qu'elle meure avant moi. C'est pas un rêve, ça. On a 72 ans de mariage. Mon cardiologue m'a demandé, vous avez un secret pour. Ma femme aime beaucoup rire, et moi aussi. Et nous rions beaucoup. C'est très bon, ça, de rire.